France Inter.
Les informations, Éric Delvaux, bonsoir.
Bonsoir Manu Payet, à dimanche prochain et bienvenue à tous au sommaire ce soir. Marine Le Pen appelle ses partisans à se préparer pour de prochaines législatives. En meeting à Bordeaux, elle prédit une censure dans quelques semaines ou quelques mois. Nous serons en direct de Bordeaux. Voilà donc Sébastien Lecornu un peu plus sous la pression politique et sociale également. Les agriculteurs appellent à une journée d'action le 26, le vendredi 26. Et le patronat menace de se mobiliser si le futur gouvernement répond aux exigences de la gauche. Dans ce journal, nous serons à Londres où le Premier ministre condamne les violences au lendemain d'un vaste rassemblement de l'extrême droite. Étape également à Jérusalem où l'Américain Marco Rubio entame une visite pour soutenir Israël dans la guerre contre le Hamas. En rugby, la qualification de la France en demi-finale de la Coupe du Monde féminine, victoire arrachée de justesse face aux Irlandaises. Elles rencontreront l'Angleterre qui vient de battre l'Écosse 40 à 8. Et nous reviendrons sur cette tendance depuis le début de l'été, des tétines dans la bouche des adultes, censées apporter un certain apaisement, mais à vos risques et périls, préviennent les dentistes qui redoutent plus de mal que de bien. Le temps de demain lundi, c'est Linda Costa, avec encore un peu de grisaille le matin, mais le soleil va finir par percer.
Oui, notamment sur le nord du pays où la perturbation sera déjà passée.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes.
France Inter.
Le Rassemblement National avait donc prédit un mandat court pour Sébastien Lecornu. La censure au bout du chemin, ce serait même une question de semaines ou de quelques mois, à en croire Marine Le Pen cet après-midi, en meeting à Bordeaux, où vous êtes, Lise Roosevelt. Bonjour, bonsoir.
Bonsoir.
En direct donc de Bordeaux, où le Rassemblement National tenait son meeting de rentrée. Grosse pression donc du RN, avant même de rencontrer le nouveau Premier ministre.
Oui, devant un parterre de drapeaux tricolores, Marine Le Pen fait siffler Sébastien Lecornu et tourne en dérision ses consultations.
On nous dit que le nouveau Premier ministre va commencer ses consultations. C'est une expression assez adaptée pour un système malade, d'ailleurs.
Le rendez-vous n'est pas encore calé à Matignon, mais la chef de file des députés RN scelle déjà le sort du futur gouvernement.
Qui peut croire qu'un grand projet bienfaisant et fédérateur puisse naître de ces bricolages politiciens? Où croyez-vous que cet attelage sans chevaux, cette carriole sans roues et cette conduite sans cocher pourra nous amener?
Le RN répète pourtant qu'il se montrera constructif. Nous ne sommes pas LFI, mais Marine Le Pen veut aussi mettre la pression sur le Premier ministre et sur Emmanuel Macron.
Et le RN continue d'ailleurs de réclamer une dissolution.
Le changement n'attend plus, peut-on lire en grosses lettres derrière le pupitre. Marine Le Pen parle même au futur.
Lorsque ce gouvernement déjà oublié sera censuré, probablement dans quelques semaines ou dans quelques mois, eh bien vous serez à nouveau appelé aux urnes. Vous aurez le pouvoir de faire de Jordan votre Premier ministre.
Son dauphin déroule un programme avec comme principale cible le coût, je cite, colossal de l'immigration et se présente comme une alternance.
Il dépense sans compter, nous, nous remettrons de l'ordre. Il creuse la dette, nous libérons et nous simplifierons la France. Ils affaiblissent le pays, nous mettrons tout en œuvre pour le redresser.
Jordan Bardella qui réfléchit déjà à la circonscription dans laquelle il pourrait se présenter. Un discours aux airs de campagne.
Lise Roosevelt avec les moyens techniques de Benjamin Reyes en direct de Bordeaux. Le RN qui n'est pas la seule épée de Damoclès au-dessus de la tête du nouveau Premier ministre. Sébastien Lecornu consulte tous azimuts pour bâtir un gouvernement et il entrevoit donc un à un les obstacles politiques et syndicaux qu'il va devoir enjamber s'il veut trouver un peu de perspective à Matignon. À peine nommé, voilà donc un Premier ministre sous haute pression, Paul Barcelone.
Alors il n'a pas encore défait ses cartons, mais Sébastien Lecornu voit déjà s'empiler les dossiers chauds sur son bureau. Mobilisation de l'intersyndicale jeudi prochain, le 18 septembre. Quelques jours plus tard, le principal syndicat agricole, la FNSEA, appelle à sortir les tracteurs contre le traité de libre-échange Mercosur. Même les patrons menacent de montrer les dents si les impôts sur les sociétés augmentaient, alors que le nouveau Premier ministre s'est dit ouvert à discuter de justice fiscale, de répartition de l'effort, sans toucher au patrimoine professionnel. Matignon Macron continue de jouer la carte de la discrétion, misant plutôt sur la reprise d'un dialogue constructif. Problème, l'abandon de l'idée de supprimer deux jours fériés, comme la confirmation que le conclave sur les retraites ne serait pas rouvert. Tout cela ne suffit visiblement pas à calmer la grogne. La CGT sera reçue demain, le Parti Socialiste dans les jours à venir, même si officiellement l'invitation n'a pas encore été envoyée, au risque d'afficher une certaine fébrilité.
Paul Barcelone, vous évoquiez les prochains rendez-vous syndicaux et politiques que propose Sébastien Lecornu pour des discussions qu'il souhaite modernes et franches. Or, il y a au moins un parti qui n'a pas l'intention de se rendre à Matignon, c'est la France Insoumise. Clémence Guettet, la députée LFI, vice-présidente de l'Assemblée nationale, a expliqué pourquoi à la mi-journée sur France Inter.
Qu'est-ce que ça veut dire une discussion moderne et franche ? Tout et n'importe quoi, on ne sait pas. Donc il va pouvoir discuter. Nous avons déjà dit que nous n'irons pas à un rendez-vous avec M. Lecornu parce que nous savons quel projet de budget il va être présenté. Nous ne savons pas dans quelle mesure l'austérité se déploiera, combien de milliards, mais nous savons que ce sera un budget austéritaire. Donc nous allons déposer une motion de censure et nous n'irons pas discuter avec M. Lecornu. C'est le troisième Premier ministre illégitime que nomme M. Macron. En 2024, il y a eu un fait majeur, c'était la dissolution de l'Assemblée nationale et c'est le nouveau Front populaire qui était arrivé en tête. Donc M. Barnier est tombé parce qu'il était illégitime. Il a fait 3 mois. Monsieur Bayrou a duré un petit peu plus avec des manigances et des magouilles, notamment le fameux conclave sur les retraites. Il a duré un peu plus, mais il est tombé. Monsieur Lecornu va tomber. Et ce que je déplore, madame, c'est que, en réalité, monsieur Macron nous fait perdre un temps fou. Et pour les Français, et pour faire face au changement climatique et à toutes les urgences qu'on devrait affronter aujourd'hui.
L'insoumise Clémence Guettet dans l'émission Question politique, c'était à la mi-journée sur France Inter. Elle était interrogée par Alexandra Ben Saïd. Et parmi les acteurs syndicaux qui mettent la pression sur le nouveau Premier ministre, la FNSEA lance une journée d'action, non pas le jeudi 25, comme l'annonçait ce matin le président du principal syndicat agricole, mais le vendredi 26 septembre. Il y a eu une erreur de communication. Une journée de mobilisation agricole, donc, contre le traité de libre-échange du Mercosur, contre les taxes imposées par Donald Trump. Un autre syndicat agricole sera d'ailleurs aux côtés de la FNSEA ce vendredi 26 septembre. C'est la coordination rurale. Sa présidente Véronique Le Floch ne veut pas rater ce rendez-vous, parmi d'autres.
Dès le 18 septembre, nous avons déjà des actions à Boulogne. Oui. Ici et là, les coordinations rurales départementales s'organisent, se mobilisent. Les problématiques sont liées aux aléas climatiques, aux aléas sanitaires. Ce Mercosur, bien entendu, qui nous pend au nez, même si la FNSEA attendait du président de la République que cet accord ne soit pas signé en l'état, nous, on attendait du président et de la France et qu'il soit défendu pour ne pas être signé du tout. Avec des clauses de sauvegarde, on nous fait croire qu'on pourra arrêter ces échanges ou ces produits qui viendraient en Europe. Eh bien non, parce qu'en fait, ces clauses ne sont pas encore écrites. Elles sont juste promises pour faire en sorte que la France accepte.
Voilà donc pour la pression agricole. Notez encore que les patrons d'entreprises également envisagent de manifester. Menace aujourd'hui du patron du MEDEF, Patrick Martin, qui refusera toute hausse des impôts. Il prévient aussi d'un grand rassemblement patronal si le prochain gouvernement validait les propositions des socialistes notamment. La SNCF soupçonne un acte de malveillance après l'incendie sur une infrastructure ferroviaire au sud de Bordeaux ce matin. Le trafic très fortement perturbé donc entre Bordeaux et Toulouse. Cela dit, depuis 3 quarts d'heure, le trafic reprend peu à peu entre Bordeaux et Agen. J'ajoute d'autres perturbations sur les rails, cette fois entre Besançon et Dijon à cause d'un important vol de câbles cet après-midi. 5 adolescents mis en examen dans l'enquête sur le lynchage au sol d'un policier. C'était jeudi à Tourcoing lors d'un vol de trottinette. La scène a été filmée, diffusée sur les réseaux sociaux. Le policier a le nez et plusieurs dents cassées. Les 2 dernières personnes interpellées âgées de 17 et 19 ans ont été placées aujourd'hui en détention provisoire. 2 autres personnes sont encore recherchées.
France Inter. Éric Delvaux.
Les pays arabo-islamiques rentrent et se réunissent aujourd'hui et demain à Doha. Il s'agit de définir une riposte commune, 5 jours après les frappes d'Israël au Qatar qui visaient plusieurs hauts dirigeants du Hamas. Aujourd'hui, le Premier ministre du Qatar appelle d'ailleurs la communauté internationale à sanctionner Israël pour ce qu'il décrit comme l'ensemble de ses crimes. Fin de citation. Et comme pour faire contrepoids, eh bien le secrétaire d'État américain Marco Rubio entame aujourd'hui une visite en Israël. Bonsoir Michel Paul.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
En direct de Jérusalem, RFI pour France Inter. Même si Donald Trump n'a pas apprécié les frappes israéliennes au Qatar, Marco Rubio vient à Jérusalem réaffirmer son soutien à Israël dans la guerre qu'il mène contre le Hamas.
Oui, pas d'entretien politique aujourd'hui pour cette première journée de la visite de Marco Rubio en Israël, mais un moment fort, une prière commune en compagnie de Benjamin Netanyahou au mur des lamentations, un geste symbolique que le Premier ministre israélien a mis en avant pour souligner la solidité de l'alliance entre les deux pays. Il a qualifié Marco Rubio d'ami exceptionnel de l'État d'Israël, affirmant que sous l'administration Trump, cette alliance était plus forte que jamais. Le secrétaire d'État, pour sa part, a atterri en Israël avec l'objectif déclaré de mieux comprendre les conséquences de la récente attaque à Doha sur la suite de la guerre. Ce qui est arrivé, nous ne sommes bien sûr pas contents, mais il faut aller de l'avant, a-t-il déclaré. Le sujet principal des entretiens du chef de la diplomatie américaine avec ses interlocuteurs israéliens doit porter sur l'initiative franco-saoudienne de reconnaissance de l'État palestinien et la réponse qu'Israël entend lui donner. Les entretiens clés avec les responsables israéliens sont prévus pour demain. Et au programme également demain, Eric, une visite sur un site de fouilles archéologiques mené par une association de colons à Jérusalem-Est.
Michel Paul, en direct de Jérusalem. À Londres, au lendemain d'un rassemblement de l'extrême droite qui a réuni jusqu'à 150 000 personnes, le Premier ministre britannique Keir Starmer a tenu aujourd'hui à faire une mise au point contre les risques de violence, les risques de peur et de division dans le pays. Correspondance à Londres de Gaëlle Joly.
Le droit de manifester pacifiquement est un élément fondamental des valeurs de notre pays, écrit le Premier ministre britannique. Mais nous ne tolérerons pas les agressions contre les policiers, ni que des personnes se sentent intimidées dans nos rues à cause de leurs origines ou de leur couleur de peau, a averti Keir Starmer. Notre drapeau représente la diversité de notre pays et nous ne l'abandonnerons jamais à ceux qui l'utilisent comme symbole de violence, de peur et de division. Une première réaction après la démonstration de force hier de l'extrême droite dans les rues de Londres. Des violences ont éclaté en marge de la manifestation. 24 personnes ont été interpellées pour agression ou dégradation. Plusieurs personnalités ont pris la parole hier, dont Elon Musk, présent par visioconférence. Que vous choisissiez ou non la violence viendra à vous, a lancé le milliardaire américain devant des dizaines de milliers de personnes. Soit vous ripostez, soit vous mourrez. Il a aussi appelé à la démission du gouvernement Keir Starmer.
Kaya Kallas, la chef de la diplomatie européenne, dénonce aujourd'hui l'intrusion de drones russes la nuit dernière dans l'espace aérien roumain lors d'une attaque contre l'Ukraine voisine. C'est inacceptable, a-t-elle dit, en accusant Moscou d'une escalade imprudente. Et aujourd'hui, la Roumanie a décidé de convoquer l'ambassadeur russe. Le cyclisme en Espagne avec la dernière étape de la Vuelta arrêtée, tout simplement stoppée cet après-midi. C'était à Madrid. Les manifestants pro-palestiniens ont envahi le parcours dans le centre-ville, comme cela s'est passé plusieurs fois durant les étapes du Tour d'Espagne. Cette fois, la police a chargé les manifestants. Elle a tiré des grenades lacrymogènes. Manifestations pro-palestiniennes qui sont soutenues aujourd'hui par le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez. La France, et on parle de sport, la France s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde féminine de rugby. Elle a battu, cette équipe de France, battu les Irlandaises. Ça s'est passé en Angleterre. Score final 18-13, victoire française donc. Mais que ce fut périlleux, Fanny Lechevestrier.
Il suffisait de voir au coup de sifflet final le soulagement de la co-sélectionneur Gaël Mignot qui avait du mal à reprendre son souffle, les larmes aussi d'une bonne partie des joueuses pour comprendre à quel point les Bleus sont revenus de nulle part. Aujourd'hui, reconnaît la demi de mêlée Pauline Bourdon-Sensus.
Franchement, c'était un match très dur physiquement, très dur mentalement. On avait vraiment les conditions en première mi-temps. J'avais l'impression qu'on s'en sortait jamais. Mais voilà, je pense que le caractère cet après-midi a vraiment parlé et ça montre vraiment notre force.
Un caractère qui a permis à l'équipe de France, malmenée par la pluie, balayée par les rafales de vent, de revenir d'un 13-0 encaissé à la mi-temps. Rentrer à la maison dès ce soir était inimaginable pour Johanna Griset, qui avait déjà connu une énorme désillusion aux Jeux Olympiques l'été dernier avec le 7.
J'ai eu un moment où je me suis dit on va pas le faire quoi. Et je me suis dit mais c'est pas possible, avec tout ce qu'on a montré, tout ce dont on est capable, on peut pas perdre maintenant. Surtout pas revivre l'année dernière. Moi, les quarts de finale ratés, c'est pas possible. Donc c'est très bien que ça finisse comme ça.
Et si jusqu'au bout les Bleus auront tremblé, les voilà maintenant là où elles voulaient être, en demi-finale de la Coupe du Monde pour la 7e fois d'affilée. Et elles le disent, cette fois-ci, il n'y aura aucune peur, elles n'auront rien à perdre.
Voilà, et en demi-finale samedi prochain, les Françaises rencontreront l'Angleterre qui vient de battre sévèrement l'Écosse 40-8. En athlétisme, c'est un événement, une performance majuscule. Un Français a été sacré champion du monde cet après-midi sur le 10 000 mètres. Jimmy Gressier, il s'est imposé en 28 minutes, 55 secondes et 77 centièmes, record établi aux Mondiaux d'athlétisme de Tokyo. Un mot de l'équipe de France de volleyball, double championne olympique en titre. Elle a idéalement débuté son mondial aujourd'hui. Nette victoire des Bleus qui rencontrait la faible équipe de Corée du Sud à Manille. Et c'était aujourd'hui, on parle de sport, la première fête du sport. Une journée souhaitée par Emmanuel Macron au lendemain des Jeux de Paris, avec aujourd'hui plus de 4000 événements sportifs répartis sur tout le territoire, dans un contexte d'ailleurs de forte réduction des crédits alloués au sport. Emma Sarango s'est rendue à Paris, rue de Rivoli, rebaptisée pour l'occasion Boulevard du Sport, avec donc des dizaines de stands pour découvrir de nombreuses disciplines. Reportage.
En plein milieu de la chaussée, un peu humidifié par la pluie, un ring de boxe gonflable.
Direct du bras avant, après crochet, crochet.
Véronique, la cinquantaine, a enfilé les gants rouges pour la toute première fois.
C'est physique.
Un peu plus loin, c'est la fédération de triathlon qui s'est installée.
On n'a pas voulu ramener la piscine, donc on enchaîne le vélo et la course à pied. On est plus en mode duathlon.
Nathalie et sa fille enfourchent chacune un vélo d'appartement.
C'était assez intéressant, c'est tonique.
Je vous sens un peu essoufflé.
Ouais, voilà, bah, j'essayais de battre ma fille, mais j'avais du retard, donc j'ai pas pu.
Mais il y a aussi des sports plus confidentiels. La Fédération française de force, par exemple, propose de lever des barres, comme pour l'haltérophilie.
Ce que je te propose, c'est juste d'avancer un petit peu tes pieds.
Faustine abandonne à la deuxième étape.
Ah, c'est trop lourd.
Après avoir arpenté tout le boulevard, Vincent, 13 ans, repart avec le plein d'idées.
J'ai fait de l'escalade, de la boxe française, après j'ai fait du taekwondo.
Et la maman a suivi le rythme.
J'ai cru comprendre que la fête, ça serait tous les ans. Donc voilà, ce serait chouette.
C'est en tout cas l'ambition affichée de l'État, faire de ce rendez-vous un marqueur pour les Français, à l'image de la fête de la musique.
Une autre forme de sport, la pratique du cerf-volant. Et nous partons sur le front de mer de Dieppe pour le Festival international du cerf-volant. C'est jusqu'au 21 septembre, avec aujourd'hui des centaines d'amateurs sur la plage qui ont lutté avec le vent pour faire virevolter qui un papillon, qui un dragon ou un perroquet en toile. Avec plus ou moins de réussite, Bastien Roch.
C'est bon, tu peux lâcher.
Avec sa fille Romane, Aurélien s'est mis ce dimanche au cerf-volant. Le leurre affiche une licorne et virevolte joyeusement sous leurs yeux émerveillés.
On a découvert ça ce matin. On voyait les autres le faire et du coup on s'est dit, enfin ma fille surtout qui voulait le faire, donc du coup on en a acheté un.
C'est trop bien.
Au début c'était un peu compliqué et là ça va un peu mieux.
La passion du cerf-volant, ça remonte à beaucoup plus loin pour Nicolas. Cet angevin fait même partie d'un club.
Le premier cerf-volant, on l'a eu pour notre brevet des collèges avec mon frère, donc 15 ans. Et j'en ai 48 aujourd'hui, donc c'est une grande passion depuis longtemps. Et tous les week-ends, on fait du cerf-volant.
Et puis cet amour peut disparaître pour revenir des années plus tard, comme chez Mike Leskov, originaire de Moscou.
Quand j'étais petit, nos parents nous ont offert deux cerfs-volants à ma grande sœur et moi, et on les a fait voler tout l'été. Après ça, on ne s'en est plus trop servi. Et puis un jour, bien plus tard, je suis rentré par hasard dans un magasin de jouets. J'ai vu un cerf-volant, ça m'a rappelé mon enfance, et j'ai dit « Ok, j'en veux un ».
Il fait voler ce jour-là quatre énormes baleines, clairement l'attraction du jour auprès des enfants comme auprès des adultes.
Reportage de Bastien Roch sur les plages de Dieppe aujourd'hui, ici Normandie. Je termine ce journal avec une tendance apparue cet été sur les réseaux sociaux contre le stress. Des adultes se filment une tétine à la bouche, comme des enfants. Alors certes, c'est encore un peu tôt pour estimer l'ampleur du phénomène, mais déjà, les professionnels de la santé bucco-dentaire s'inquiètent, car la tétine chez l'adulte peut avoir des effets dévastateurs, Victor Vasseur.
Sur TikTok et Instagram, des internautes apparaissent avec une tétine et en font la promotion. Un phénomène apparu en Chine avant de se propager en Corée du Sud et aux États-Unis. Une tétine à la bouche, comme un objet anti-stress pour remplacer la cigarette et trouver le sommeil. Des idées reçues sans fondement, assure David Couchat. Il est le porte-parole de la Fédération française d'orthodontie.
On est, nous, abasourdis. Cette technique qui consisterait à sucer une tétine à l'état adulte n'a absolument aucune valeur scientifique, ça a été démontré dans aucune étude et c'est pas près d'arriver qu'il y a des effets bénéfiques.
Et surtout, poursuit cet orthodontiste, sucer une tétine à l'âge adulte peut avoir de sérieuses conséquences.
Il y a un impact concret mais réel, ça va provoquer ce qu'on appelle une béance, c'est-à-dire que les dents du haut ne vont plus recouvrir les dents du bas comme elles devraient le faire. Dans l'absolu, quelqu'un qui utiliserait la tétine va se déplacer les dents et même s'il n'avait pas besoin d'appareillage orthodontique, ben au bout de quelques mois d'utilisation, pour le coup, il va en avoir besoin.
Ce spécialiste déplore l'avalanche de fausses informations médicales sur les réseaux sociaux, prises pour argent comptant par des internautes.
Voilà, on retient donc la leçon, pas de tototes pour les adultes. Le temps.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso fabriquées en France et ses doses en papier naturel. À retrouver sur malongo.com.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Le soleil, c'est le retour demain, au moins sur le nord du pays.
Oui, on va passer en ciel de traîne, vous savez ce fameux ciel qu'on retrouve après le passage de la perturbation. Nuages éclaircis du nord-ouest jusqu'aux frontières belges avec encore quelques gouttes près des côtes de la Manche. Et puis encore de bonnes rafales de vent. On va retrouver la perturbation de ce dimanche entre l'Aquitaine et le nord-est avec là un ciel gris et de faibles averses. Et le soleil brillera encore entre le massif central, le quart sud-est et la Corse.
Et pour les températures, pas vraiment de changement.
Non, de saison le matin, une moyenne de 13 à 17 degrés du nord au sud. Tout juste de saison sur les deux tiers nord du pays l'après-midi avec 18 à 22 degrés. Puis encore plutôt chaud, même si ça sera un petit peu en baisse pour les régions les plus au sud. La moyenne sera comprise entre 23 et 26 degrés.
Les prévisions de Céline Dacosta.